Il conçoit le plus étrange projet jamais imaginé. Savez-vous seulement ce qu'est cela ?
Radio Campus, je crois. Et sa fréquence ? 88.3.
Ondulation.
Ondulation. Bonjour à toutes et à tous, il est midi sur Radio Campus Orléans. Vous êtes dans cette ultime édition d'Écoute ta fac spéciale ondulation parce qu'on est jeudi et que bah, Écoute ta fac ça n'a pas lieu le vendredi tout simplement. Dans tous les cas, ondulation ça continue aujourd'hui, ça continue également demain. Bah oui, ça continue demain. Bon, il n'y aura pas d'édition d'Écoute ta fac demain, mais bon, ça fait rien, c'est toujours sympa de se retrouver pendant une petite heure pour parler un petit peu de cette journée, pour diffuser un petit peu de l'interview. On va avoir aujourd'hui, là dans quelques instants, je vais vous diffuser l'interview que j'ai réalisée de Anne-Sophie Novel. Elle est journaliste indépendante et créatrice du projet Les Médias, Le Monde et Moi. C'est un projet de documentaire qu'elle a sorti en 2019 et depuis elle produit également une carte qui s'appelle le paysage audiovisuel, enfin c'est une sorte de carte en fait où elle dessine le paysage audiovisuel médiatique français. C'est la carte très subjective pour être un peu plus exact. Allez checker ce travail, de toute façon on en parle parce que c'est une carte qui est assez, assez sympathique et assez on va dire artistique quoi. Donc Anne-Sophie Novel, c'est dans quelques instants sur dans Écoute ta fac. Également, on écoutera une chronique que Vlada nous a réalisée où elle parle justement de l'enjeu des réseaux sociaux. On en a parlé hier dans Ondulation des réseaux sociaux. Là, elle vous apporte un éclairage complémentaire sur la question. Et on finira l'émission, bien évidemment, avec les amis de CFAC. On vous parlera un petit peu plus en détail du projet sur la même longueur d'onde et de ce qu'on va y faire. Puisque hier, on a un petit peu discuté de comment on s'est rencontrés, comment on s'est mis en contact et puis comment on en arriver jusqu'à être aujourd'hui à Orléans et les Québécois et les Français ici sur le 88.3 FM orléanais puisqu'ils sont sur la même fréquence que nous de l'autre côté de l'Atlantique à Sherbrooke au Québec. Et on va parler un petit peu de ce qu'on vous prévoit, chers auditeurs, chères auditrices, que vous pourrez découvrir sur les ondes au cours des prochains mois. Je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Ah si, ce soir, on se donne rendez-vous à partir de 20h pour une soirée concert au Bouillon, le centre culturel de l'Université d'Orléans. Une soirée concert avec du DJ set. On va avoir Intida et Klaus, on va avoir de la performance avec Orange Pression. Même si on est sur du numérique avec ondulation, là pour le coup, il n'y a pas d'ordinateur. On est purement analogique. Et également Plot et FZ avec du VJing et du live coding, c'est quand on utilise des lignes de commande pour générer de la musique. Vraiment ça va être top, c'est gratuit, l'entrée elle est libre au Bouillon. Il y a un parking à côté si vous voulez venir en voiture, il y a les transports en commun juste à côté, le tram, arrêt Parc Floral si vous voulez venir en transport en commun. Il n'y a pas d'excuse pour pas venir, d'accord? Vraiment, venez, vous allez passer une super soirée, buvette sur place, tatatitatata, comme ça, vous connaissez la chanson. Et également, avant de commencer, on est en live sur YouTube, vous pouvez nous voir, vous pouvez me voir, vous pouvez voir tous les plateaux en fait qu'on réalise en direct sur ce plateau au Bouillon. Vous pouvez les voir en fait en direct radio filmé, ça s'est rendu possible grâce au service audiovisuel de l'Université d'Orléans qui justement bah, nous permet d'avoir trois super caméras mobiles avec un super studio vidéo. Là je suis en train de regarder la caméra, c'est pas très radiophonique mais je suis en train de regarder la caméra. Donc vous pouvez également si vous le voulez, si vous n'êtes pas en voiture en train de conduire évidemment, garder les yeux sur la route. Je le répète, mais si vous êtes à la maison en train de manger, n'hésitez pas à ouvrir votre téléphone, tablette, ordinateur, mettre le live YouTube pour nous regarder en même temps. Sachant que par contre, il n'y aura pas de musique sur YouTube et que là, même s'il y a un bed en arrière-plan, bah, vous ne pourrez pas l'entendre sur le replay YouTube parce qu'on se fait strike en fait, parce que l'algorithme YouTube ne veut pas qu'on diffuse de la musique. Bref, donc pour la musique, restez sur le 88.3 en FM, en radio numérique terrestre et sur orléans.radiocampus.org. Et pour l'image, rendez-vous sur la chaîne YouTube de Radio Campus Orléans. Et c'est parti pour Anne-Sophie Novel.
Écoute, écoute, écoute.
C'est l'invité d'Écoute ta fac.
Écoute ta fac.
Médias et numérique libre. Ondulation.
Ondulation.
Médias et numérique libre.
Ondulation.
Ondulation.
Je reçois à mon micro Anne-Sophie Novel. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes journaliste indépendante. Aujourd'hui, vous écrivez notamment pour le Nouvel Obs ou encore La Salamandre. Et en 2019, vous avez sorti un film documentaire, Les médias, le monde et moi, qui part d'un constat. Les Français, en 2019, ont moins confiance en les journalistes qu'en leurs banquiers. Il y a quoi comme évolution depuis 2019, sachant qu'il y a eu une crise sanitaire entre les deux en 2020? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui, Anne-Sophie?
En fait, ça n'a pas vraiment changé, cette affirmation. Elle est liée à des sondages qui sont faits de manière régulière. Et le plus ancien qu'on a sur la confiance dans les médias, il est effectué par le journal La Croix tous les ans. Traditionnellement, ils le font mois de décembre, janvier. Et en fait, il faut savoir que la défiance à l'égard de la presse existe depuis toujours, que ça fluctue en fonction de l'actualité, mais que de manière générale, on ne nous fait pas vraiment confiance. Et qu'il y a, voilà. Donc, c'était cette idée de situer par rapport aux responsables politiques et aux banquiers. Mais je ne pense pas que ça ait vraiment changé. Je pense que le confinement a provoqué un regain d'informations, d'abonnements, mais qu'on est bien retombé depuis, avec toujours des considérations sur une presse de plus en plus propriété de riches milliardaires, mais aussi sur des faits de fake news, de multiplication des bouches médiatiques qui rendent ça un peu plus confus. Donc c'est pour ça que moi je me suis emparée de ce sujet, pour montrer à quel point il était urgent de se réemparer de notre rapport à l'information. Alors, pour essayer d'y voir clair.
Ce niveau de confiance, il fluctue dans le temps et dans l'histoire. Est-ce qu'il y a eu des moments où c'était historiquement bas, ou est-ce qu'on est en ce moment dans ce creux?
Quand on regarde sur les 40 ans de sondages faits par le journal La Croix, il y a des moments où il y a une grande défiance. Alors je pense dans les années 80, quand il y a eu des mensonges autour des charniers de Timmy Soira, il y a eu aussi PPDA qui avait raconté des cracks au moment d'une fausse interview. Il y a des moments, Tchernobyl aussi, quand on a dit qu'on craignait rien avec le nuage radioactif. Donc dans ce traitement d'actualité là, il y a eu des moments où ça a été très critiqué. Sur le Covid, souvent ce qui s'exprime, c'est que les gens ont ras-le-bol qu'on fasse une surenchère sur certains sujets. Donc ça a pu s'exprimer. On a eu un regain de confiance et puis des fois ça redescend. Enfin voilà, c'est assez fluctuant. Donc en fait, il faut vraiment regarder à long terme, parce que à long terme, on voit que malgré ces fluctuations, le niveau somme toute reste à peu près le même, donc très bas. Contrairement, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a d'autres institutions, comme l'hôpital ou l'école, où là, pour le coup, il y avait plutôt une forte confiance, même vis-à-vis des sciences aussi, de l'institution scientifique. Et là, pour le coup, depuis quelques années, ça s'effondre réellement à cet endroit-là. Donc, pour la presse, on a toujours été bas et c'est resté bas. Pour les autres institutions, c'est plutôt en train de s'effondrer.
Alors, vous disiez, il y a urgence à agir. Qu'est-ce qui se passe concrètement si on n'agit pas? Vers quoi va-t-on?
Le problème, pour moi, il est démocratique. C'est-à-dire que l'information, pour moi, est une forme de... assure, en fait, les rouages de la démocratie. Une bonne information permet d'agir de manière éclairée, d'être informé sur les dysfonctionnements liés à des décisions publiques ou économiques qu'il nous faut connaître de manière à pouvoir ne pas se faire avoir de manière générale ou manipuler. Mais aujourd'hui, le fait qu'il y ait cette défiance, ça fait que les gens vont moins s'informer. Alors, avant, il y avait une fatigue informationnelle. Maintenant, il y a carrément de l'évitement informationnel, mais ça ne veut pas dire que quand on évite l'information produite par les médias, qu'on va mieux s'informer par ailleurs. Et donc, quand je dis qu'il y a une multiplication des bouches médiatiques, c'est qu'il y a aussi une multiplication des réseaux sociaux, des médiums, de la propagande aussi qui est largement utilisée. Si on ne s'empare pas de cette question, si on n'arrive pas à remettre la main sur ce qu'on se met dans la tête en se disant est-ce que c'est une bonne information, est-ce que je peux la valider, etc., ça ne permet pas d'être juste clairement informé sur le monde et de pouvoir agir en circonstance. Et ce qui se passe, là on l'a vu depuis le début de la guerre en Ukraine, il y a eu des manipulations de l'information de la part de certains réseaux russes avec des conséquences dans le monde réel. Ça s'est passé beaucoup aux États-Unis, ça s'est passé au Brésil. En fait, ce n'est plus juste une frayeur ou quelque chose qu'il faut agiter, c'est vraiment un élément qui aujourd'hui a des conséquences dans les bureaux de vote et sur le comportement de certaines personnes.
L'information est donc au cœur de la démocratie.
Ah oui, complètement, évidemment. Une bonne démocratie a un bon réseau informationnel. Aujourd'hui, quand il y a des mensonges qui sont perpétrés à travers les médias ou qu'il y a une manipulation, évidemment que ça, c'est pour moi un symptôme que la démocratie ne va pas très bien.
Et aujourd'hui, ce système informationnel, il est en mauvaise santé ?
Ben, disons qu'il est un peu, je dirais, il fonctionne bien parce qu'en France, on a aussi beaucoup de médias indépendants et qu'il y a énormément d'initiatives, donc on ne peut pas faire un constat uniquement négatif. En revanche, il y a d'un côté des actionnaires qui possèdent, on va dire, à peu près 80% des grands médias. Il y a énormément de presse voilà, qui perpétue aussi des bêtises, hein, ou des éléments assez caricaturaux. Donc, il faut savoir où on met les pieds. En fait, juste avoir conscience de ça, c'est important. Et puis, sur le service public, des décisions récentes qui posent question de la manière dont on s'empare de certains sujets d'intérêt général. Et je fais référence à mon domaine de prédilection, qui est celui des questions écologiques. Donc, quand on met ça bout à bout, sans oublier les procédures Bayon ou un certain nombre de mesures qui sont prises à l'encontre de la presse sur la loi sur le secret des affaires, etc., etc., ça peut poser question sur la capacité que l'on a, quand on est journaliste, à bien faire notre métier. Et donc, toutes ces entraves doivent être documentées. Il y a d'ailleurs un organisme qui vient de se créer là, qui s'appelle l'OFALP et qui permet de référencer toutes ces atteintes faites à la liberté de presse. Et quand on regarde d'ailleurs le baromètre de Reporters sans frontières, on voit bien que la France n'est pas parmi les pays les mieux classés.
Alors il y a des facteurs, des menaces, est-ce qu'on peut parler de menaces qui sont extérieures justement aux organes de presse ? Vous parliez de manipulation, vous parliez de propagande de la part des États ? Ce sont ces acteurs-là qui mettent à mal la presse ?
Pas seulement, en fait, il y a différents types d'atteintes à la presse. Sur le site de l'OFALP, en fait, ils vont tenir à jour une base de données qui va référencier l'ensemble des atteintes que l'on peut avoir. Donc ça peut être dans une manifestation des journalistes qui sont conspués par des manifestants, ça peut être des policiers qui font des violences sur des reporters, ça peut être dans l'accès aux sources d'informations, ça peut revêtir différents visages, en fait, ces atteintes à la presse. Et puis sur le secret des affaires, c'est l'interdiction d'aller investiguer sur les actes de certaines entreprises aussi, par exemple.
Et est-ce que cette menace, ça peut également venir de l'intérieur des organes de presse ? Vous parliez tout à l'heure justement de ces médias qui sont détenus par des milliardaires. Est-ce que l'information qu'ils peuvent fournir peut être par moments biaisée, peuvent mettre à mal justement ? Vous parlez notamment d'infobésité. Est-ce qu'on peut déjà définir ce terme ?
Oui, l'infobésité, c'est le fait d'être surinformé. Il y a des gens qui ont besoin de tout voir passer. À force d'être soumis à des flux d'informations variées et pas uniquement issues de médias, ça peut être aussi sur les réseaux sociaux, ça peut être via la publicité, ça peut être à travers tous les médiums qui s'imposent à nous aujourd'hui. Donc c'est ce sentiment d'être surinformé et de ne plus savoir où donner de la tête, de ne plus comprendre tout ce qui est dit, de ne pas avoir de discernement. Mais on a aussi d'autres symptômes de personnes qui ont peur de passer à côté de quelque chose. Il y a des personnes qui, au contraire, n'en peuvent plus et donc vont couper tout flux d'informations. Et puis, il y a ceux qui continuent de s'informer malgré eux ou elles et qui, pour le coup, ont du mal à croire dans ce qu'ils entendent, voient ou regardent, ou entendent ou lisent. Ça, c'est une première chose. L'influence des milliardaires sur les médias, c'est pas parce qu'on est propriété d'un grand milliardaire qu'on va forcément faire une mauvaise information ou que l'information va être manipulée. Il y a des médias dans lesquels il y a des structuration qui permettent d'encadrer la liberté de la rédaction par rapport à l'actionnariat de l'entreprise de presse. En revanche, il y a certains médias, notamment ceux du groupe Bolloré, qui ont pu montrer ces derniers mois, notamment au JDD ou sur CNews, l'influence de plus en plus importante sur la ligne éditoriale. Donc c'est ça qu'il faut questionner dans ces cas-là. La chance qu'on a, c'est qu'il y a aussi en France énormément de médias indépendants qui fonctionnent bien, mais qui sont menacés parce que lorsqu'ils font des enquêtes de qualité, peuvent être intimidés par des procédures Bayon nous. Donc c'est important aussi que le public soit au courant du fonctionnement de la presse, qu'il y ait une acculturation plus importante pour développer son esprit critique et avoir cette grille de lecture quand on reçoit une information, d'où vient-elle, qui l'a produite, dans quelles conditions et en quelle mesure puis-je avoir confiance. Donc il faut en fait se poser des questions de manière plus automatique par rapport à tout ça.
Alors on parle également de junk information, de la malinformation comme de la malbouffe d'informations qui peuvent être produites par certains de ces médias et qui généralement c'est de l'information qui semble être davantage virale que des enquêtes qui sont davantage construites, abouties et approfondies.
Oui, alors c'est une comparaison qu'on a faite dans le documentaire et que j'ai suivi au fil du temps dans mes ouvrages, mais en effet, on peut faire de belles comparaisons entre le rapport à l'information et le rapport à l'alimentation. Et aujourd'hui, dans tout le flux d'informations qu'on reçoit, on a un peu de tout. Il y a des produits de qualité, comme des produits qui ont été fabriqués à la va-vite, sans vérification. Et donc, l'essentiel, c'est d'avoir conscience de ce qu'on consomme. Je veux dire, on a le droit d'aller manger de temps en temps dans un fast-food en ayant conscience qu'on sait que ce n'est pas forcément de bonne qualité ou bon pour la santé. Ce n'est pas pour autant qu'on ne sait pas à côté aller se faire des bons petits plats avec des produits de meilleure qualité. Donc, pour l'information, c'est vraiment pareil. L'essentiel, c'est de dire quand je regarde ça, que je lis ça ou que j'entends ça, je sais d'où ça vient et je sais la qualité que ça représente. Et si vraiment j'ai envie d'approfondir le sujet, à moi de chercher les outils qui me permettent de vérifier tout ça.
Est-ce qu'il y a un équilibre qui est possible d'être trouvé entre justement ces grandes enquêtes qualitatives et cette junk information ? Ou est-ce qu'au contraire, les médias qui produisent cette malinformation, quelque part, elles opèrent indirectement une forme de censure dans une invisibilisation des travaux journalistiques plus rondement menés ?
En fait, la malinformation, elle peut être le fait de médias mal intentionnés. D'ailleurs, on discerne la malinformation, la désinformation, les fake news, enfin, il y a des sous-catégories.
Par quelle différence ça ?
Alors, il y en a qui sont faites à dessein, il y en a qui sont faites juste parce que c'est une erreur. Il y a un degré de manipulation plus ou moins volontaire dans un cas et dans l'autre. Et ensuite, il y a tout ce qui relève des réseaux sociaux et de la logique des réseaux sociaux. Qui eux aussi peuvent colporter ou manipuler les faits. Aujourd'hui, il faut comprendre que c'est tout un maillage en fait entre des médias professionnels, des comptes sur les réseaux sociaux d'influenceurs ou de bots, de robots qui sont faits exprès pour diffuser. Je ne sais pas si les auditeurs ont par exemple pu voir la série La Fièvre. Qui met bien ça en scène sur ces manipulations qui existent aujourd'hui. Ensuite, il y a des relais qu'on peut avoir avec des maisons d'édition, etc. etc. Donc, la fabrique culturelle du message peut être tenue à différents endroits. Donc, quand on dit apprendre à discerner, c'est apprendre à vraiment essayer de trouver les liens entre ces différents messages, la manière dont ils ont été produits, relayés. Donc, ça demande un petit peu de temps, une fois qu'on est habitué à ça, ça devient plus facile. Et puis, on prend des habitudes aussi de savoir quelles sont les bonnes sources, quelles sont les sources de moindre qualité et puis comment recouper. En fait, une source peut aussi, d'un jour à l'autre, peut changer de direction et changer de qualité. Donc, il faut toujours re-questionner ces habitudes-là.
Alors, il y a un outil que vous produisez et mettez à disposition. C'est le kit de survie médiatique dans lequel on trouve notamment une carte. C'est la carte très subjective du paysage médiatique français. Un grand panorama sous format d'un paysage dessiné avec des couleurs très pop, avec plein de noms de médias. Alors, on a les médias mainstream, mais également énormément de médias indépendants dont vous parliez. Peut-être un mot sur cette carte. Pourquoi justement elle prend cette forme-là ?
En fait, quand on a terminé le film et ensuite le livre qui complète le film, avec Natacha Bigan, qui est ma graphiste, avec qui complice depuis 10 ans, on s'était dit qu'il faudrait qu'on fasse une carte du paysage médiatique français parce qu'il n'y a qu'une représentation à date aujourd'hui qui est très intéressante, qui est faite par Acrimed et le monde diplomatique et qui montre quel média est propriété de quel actionnaire, milliardaire ou banque ou autre. On estime que cette représentation laisse entendre que les médias ne pourraient être réduits qu'à cette propriété-là et que les médias appartenant à ces actionnaires ne seraient que des médias corrompus ou manipulés. Donc l'idée de notre présentation était de dire on va reprendre en effet dans le fleuve qui traverse le paysage ces médias mainstream que tout le monde connaît et représenter leurs actionnaires par des bateaux, hein, les gros paquebots qu'on a mis pour le paquebot. Mais dire aussi, vous pouvez sortir la tête du fleuve et aller explorer d'autres sources que vous connaissez sans doute un peu moins. Et donc c'est là qu'on a, alors c'est une carte subjective, donc donner une vision du paysage avec la presse d'investigation, les organisations qui permettent de garder le Nord et de garantir la liberté de presse, la presse scientifique, la presse féministe, la presse féminine, toute la vallée des alternatives. On a mis aussi la presse locale au centre, en reprenant celle qui est aussi propriété de banques, mais aussi celle qui est alternative localement. Et en fait, l'idée, c'était de proposer une représentation un peu différente. Et on a été surpris de l'accueil de cette carte parce que les gens ont trouvé ça très intéressant. Et s'en sont vraiment emparés. Il y a énormément de profs et de journalistes qui l'utilisent en atelier média parce que ça donne envie de jeter un autre regard, de raconter autre chose. Et c'est aussi une invitation à ce que chacun et chacune dessine son paysage médiatique à lui. parce que là, c'est une version personnelle, mais bien entendu, on peut en avoir d'autres. Et l'idée, c'est de dire, vous pouvez vous réapproprier ça et on peut inventer de nouveaux récits aussi par rapport à ces messages médiatiques.
Alors, sur cette carte, on trouve de nombreux médias indépendants, mais aussi des médias associatifs. Alors, nous, le réseau Radio Campus France, on est cité aux côtés notamment de Radio Parleur ou encore de... Il y a Jet d'encre aussi, j'ai vu. Les médias... D'ailleurs, merci beaucoup d'avoir fait cette mention au Radio Campus. Je souhaitais savoir quelle place, selon vous, ont en fait les médias associatifs, les médias collectifs qui sont ouverts à toutes et à tous. Est-ce qu'on peut dire que c'est une nouvelle forme de faire du journalisme ? Est-ce que c'est peut-être une des clés du journalisme de demain ?
En fait, pour moi, c'est une forme historique de médias qui assure la diversité et la richesse dans le paysage médiatique. C'est un peu comme dans la nature, en fait. Il nous faut de la biodiversité. C'est ce qui assure la robustesse d'un écosystème. Dans les médias, c'est pareil. Plus on aura une pluralité de voix, plus on aura différents modèles, et plus notre système informatif sera robuste. Et pour moi, c'est très important le travail qui est fait à cet endroit-là. C'est aussi des lieux d'échange, de transmission qui sont indispensables. Et donc, pour nous, c'était important de le faire apparaître. La première version de la carte que nous avions faite en 2020 n'était pas aussi précise. Et donc là, on a vraiment passé 2 années à retravailler pour faire apparaître tout ça.
C'est indispensable, cette presse alternative ?
Ah oui, elle est indispensable. Et plus que jamais aujourd'hui, parce que on a besoin des médias mainstream qui parlent au plus grand nombre. C'est important aussi d'y être pour essayer d'avoir du relais. Mais c'est aussi très important d'avoir une presse alternative qui va couvrir l'actualité de manière différente, qui peut collaborer, qui peut aussi donner un autre regard sur le monde et parfois pousser même des sujets que les grands médias n'iront chercher que dans un deuxième ou troisième temps. Si je prends l'exemple que je connais le mieux sur l'écologie, mais ça va être pareil sur le féminisme ou sur d'autres types de sujets, ces médias indépendants qui peuvent s'emparer plus pleinement de certaines questions vont ensuite les pousser dans les médias mainstream. Et ça fonctionne pareil entre la presse locale et la presse nationale. Souvent, il y a beaucoup de sujets dans la presse locale qui sont repris quelques jours plus tard dans la presse nationale.
Et la presse...
Donc c'est un écosystème, voilà.
Et dans cet écosystème, donc, il y a là, en effet les médias qui sont alternatifs, il y a vraiment les médias qui sont collectifs, donc associatifs, dans lesquels tout un chacun peut venir et faire du journalisme. À qui appartient le journalisme, en fait ? Est-ce qu'il y a besoin d'être diplômé pour être journaliste ?
Non, pas forcément. Moi-même, je ne suis pas diplômée, je n'ai pas fait d'école. Alors c'est mieux, si vous voulez gagner du temps et du réseau, Il y a les 14 écoles reconnues et au total, je crois qu'il y a une quarantaine d'écoles en France. Mais on n'est pas obligé. Et en plus, aujourd'hui, j'ai envie de dire, tout le monde est acculturé aux outils de communication et d'information. On a tous une caméra sur nous, de quoi faire des enregistrements. Enfin, je veux dire, les outils journalistiques de base, tout le monde peut se les approprier. Après, l'important, c'est de comprendre que le journalisme, c'est une méthode de travail, c'est une déontologie, c'est aussi une façon de vérifier ses sources. Donc, c'est quand même, voilà, on peut avoir des journalistes citoyens, mais on peut se former pour aller plus loin et pour être rigoureux, en fait, c'est ça le plus important, pour assurer la transparence de ce qu'on fait. Donc, l'école n'est pas indispensable. L'essentiel, c'est d'assurer la transparence du travail que l'on effectue, d'avoir de la méthode et de respecter une certaine déontologie.
Anne-Sophie Novel, journaliste indépendante, Les Médias, Le Monde et Moi, c'est le projet que vous portez. Avant de se quitter, Ondulation 88.30 ans, c'est le titre véritablement de cette deuxième édition d'Ondulation dans le cadre des 30 ans de Radio Campus Orléans. J'aimerais vous inviter, Anne-Sophie, à imaginer à quoi ressembleront les médias et la presse dans 30 ans et plus particulièrement à quoi ressemblera la radio et même les radios associatives comme Radio Campus.
Waouh, je suis toujours très mauvaise dans les exercices de prospective. Ce que je souhaite, c'est que l'on puisse garder, moi, la pluralité. Après, on aura sans doute dans 30 ans d'autres nouveaux outils qui auront vu le jour. Là, en ce moment, on parle beaucoup de l'intelligence artificielle. Je pense qu'il faut arriver à s'approprier ces outils. Mais je crois aussi que ces nouveaux outils demandent aussi beaucoup de ressources qu'on ne sait pas trop si ça arrivera à véritablement fonctionner. Est-ce qu'on pourra continuer à explorer autant les ressources pour développer ces nouveaux outils? Et à partir de là, la radio me semble être assez rodée, assez robuste et peut-être un outil qui pourra perdurer plus que les autres dans le temps.
Et quelle place pour les médias locaux?
Les médias locaux, pour moi, sont essentiels. Je pense qu'on doit absolument retisser du lien en local. Et c'est ce en quoi je crois le plus, en fait, aujourd'hui, avec des relais au national, bien entendu.
Et sur quel levier on peut compter pour, justement, redorer un peu la presse locale?
Sur quel relais?
Sur quel levier, quel moyen on peut mettre pour redorer un peu cette image, pour donner plus de portée, on va dire?
Je pense qu'il faut déjà que les gens comprennent qu'ils peuvent s'informer en local et puis faire en sorte que les médias plus installés soient aussi à l'écoute et créent des partenariats, ce qui est souvent le plus difficile. Quand il y en a qui en local ont un monopole, ils ne sont pas forcément à l'écoute des plus petites initiatives. Donc ça dépend de l'état d'esprit des rédactions et des personnes qui les dirigent.
Donc créer du lien entre les plus grosses rédactions et les rédactions plus modestes.
Exactement, ouais, c'est ce qu'on a mis dans la charte pour un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique.
Qu'on peut retrouver sur lesmedialemondeetmoi.com, j'imagine.
Oui, ou sur le site charte journalisme écologie.
Est-ce qu'on peut me dire un petit mot sur cette charte, justement?
En fait, c'est un travail que l'on a mené à une trentaine de journalistes. Elle est sortie en septembre 2022. Elle a été signée par 2000 journalistes et 300 organisations. Et l'idée était de proposer un texte rappelant en 13 points les éléments essentiels d'une couverture à la hauteur des enjeux du climat et de la biodiversité. Donc, vous pouvez aller la lire et elle a été assez relayée parce que je pense qu'elle est venue valider des pratiques que certains et certaines avaient déjà, mais elle est aussi venue faire un rappel nécessaire là où parfois ce traitement médiatique pêche grandement. C'est encore beaucoup le cas aujourd'hui, hélas.
Un dernier mot avant de nous quitter, Anne-Sophie.
Merci à vous et puis bonne continuation et bon festival.
Merci beaucoup Anne-Sophie Novel, journaliste indépendante, actuellement au Nouvel Observateur ou encore à la Salamandre, mais également sur le projet depuis 2019, Les Médias, Le Monde et Moi.com. Donc un premier film documentaire qui est à retrouver donc sur ce site internet avec également donc la carte très subjective du paysage médiatique français que nos chers auditeurs peuvent notamment commander et l'accrocher dans leur salon comme j'ai pu le faire.
Eh ben c'est une très bonne idée.
Merci beaucoup. Et je le rappelle que l'intégralité de ces rencontres, de ces interviews réalisées pour Ondulation 88.30 ans médias et numérique libre, vous pouvez les retrouver très prochainement dans les prochains jours et prochaines semaines. C'est sur notre site internet orléans.radiocampus.org. Restez avec nous, il est midi 29. Dans quelques instants, on sera avec Vlada pour parler de justement de réseaux sociaux via une chronique qu'elle nous a préparée. Mais pour l'heure, Starbuster de Fontaine. D'ici. Fontaine DC, un titre de Starbuster, un petit clin d'œil à Léo qui est actuellement à la réalisation audio de ce plateau d'ondulation qui m'a dit c'est mon titre préféré sur Radio Campus Orléans. Et oui, parce que sur Radio Campus on fait énormément de découvertes musicales et je le rappelle qu'on est en plus d'être en live, en direct sur le 88.3 en FM sur notre site internet, c'est orléans.radiocampus.org, allez checker ça si vous ne l'avez pas déjà fait. Et en radio numérique terrestre, on est également en live vidéo sur YouTube, donc je salue également Marine que vous avez découverte ces derniers jours sur Écoute ta fac à mes côtés, qui aujourd'hui allait passer derrière la console vidéo pour être un peu plus exact dans Ondulation.
Média et numérique libre.
Ondulation.
Ondulation.
Média et numérique libre.
Ondulation.
Ondulation. Ondulation. Ondulation.
On continue à parler de médias et notamment de réseaux sociaux, de liberté et de censure des réseaux sociaux avec Vlada.
Le paradoxe de la censure sur les réseaux sociaux, liberté d'expression. Il est impossible de nier que les réseaux sociaux ont effectivement gagné en popularité. Ainsi, selon Via Social, une agence spécialisée dans l'analyse des usages des réseaux sociaux, entre janvier 2023 et janvier 2024, il y a eu 266 millions d'utilisateurs des réseaux sociaux en plus dans le monde, soit une augmentation de 5,6%. Ils ont acquis cette popularité non seulement grâce à leur capacité à connecter instantanément les gens du monde entier, mais aussi grâce à leur capacité de répondre à plusieurs besoins fondamentaux des individus. La connexion sociale, le sentiment d'appartenance à une communauté, la recherche de soutien, d'approbation et bien sûr l'expression de soi. Toujours d'après Via Social, parmi les 5 réseaux sociaux les plus populaires en France, il y a en première position Facebook, cité par 22,8% des répondants, puis vient Instagram, cité par 19,3% des répondants, suivi de l'application de messagerie instantanée WhatsApp, mentionnée par 13,8% des répondants, enfin TikTok, que 9,9% des participants à l'enquête disent utilisent Vine avant Snapchat, qui récolte 7,3% des mentions. Mais comment les réseaux sociaux sont-ils devenus si populaires? Twitter est devenu un espace où l'information est diffusée en temps réel, favorisant le partage rapide d'idées et d'opinions. Instagram, avec son orientation visuelle, a permis aux individus de s'exprimer à travers des images, créant ainsi une plateforme pour la créativité et l'esthétique personnelle. Avec ses likes, commentaires et stories, il favorise l'interaction et renforce les liens entre les utilisateurs. Quant à TikTok, sa nature liquide et ses courts vidéos en captivité à un large public, son algorithme intelligent présente aux utilisateurs un flux contenu personnalisé, les gardant accrochés à leur écran. Il est vrai que la liberté d'expression sur les réseaux sociaux permet à chacun de partager ses pensées et émotions. Les utilisateurs publient divers contenus pour exprimer leur identité et leurs opinions, ce qui peut entraîner des débats et des réactions. De plus, les réseaux sociaux permettent de sensibiliser le public à des questions importantes et de mobiliser des actions collectives. Par exemple, en février 2022, les réseaux sociaux sont devenus un outil incroyablement efficace pour mobiliser l'aide à l'Ukraine. Les hashtags lancés sur les réseaux comme Stand with Ukraine, Stop War in Ukraine ou No War in Ukraine ont non seulement réussi à informer des millions de personnes et à les y unir, mais ils sont également devenus un moyen de collecter des fonds et de l'aide, de coordonner des bénévoles, d'appeler aux sanctions et de documenter les crimes de guerre. Cependant, pouvons-nous déterminer où commence et où finit cette liberté d'expression sur les réseaux sociaux? Elle commence avec le droit fondamental de chaque individu de s'exprimer, mais elle se termine là où elle empiète sur les droits d'autrui, incite à la violence ou propage des mensonges. Malgré la présence de toutes ces conditions favorables sur les réseaux sociaux, ce système comporte également des restrictions et différentes formes de contrôle. Lemondenumérique.com souligne les méthodes de contrôle couramment utilisées par l'État, la surveillance des activités des utilisateurs et filtrage, la pression politique, judiciaire et réglementaire, ainsi que la manipulation des algorithmes de recommandation pour favoriser certains contenus. Les algorithmes de recommandation et des bulles de filtrage sont des outils utilisés par les plateformes pour personnaliser le contenu, ce qui peut créer des écosystèmes où les opinions divergentes sont moins visibles, renforçant les préjugés et les bulles d'opinion. C'est le cas notamment d'une actrice et d'une présentatrice de télévision et de radio britannique, Jamila Jamil. Par exemple, son compte Instagram, qui compte 3,7 millions d'abonnés, selon ses dires, est régulièrement confronté à des problèmes et des restrictions. Les histoires sont cachées, l'accès à ses publications est limité, les interactions avec son compte sont restreintes et les commentaires ainsi que les abonnés sont supprimés. Selon l'influenceuse, l'algorithme d'Instagram a des règles spéciales pour la promotion de contenu. Elle affirme que pour devenir viral sur les réseaux sociaux aujourd'hui, il faut avoir une apparence éblouissant et suivre strictement les normes de beauté et des règles de popularité actuelles. C'est-à-dire être le plus dénudé que possible, porter des talons hauts, énormes et des vêtements serrés et inconfortables. En effet, Jamila estime que son contenu féministe et ses réflexions sont moins intéressantes pour l'algorithme. Selon Romain Crowdery, responsable éthique de l'intelligence artificielle chez Twitter de 2019 à 2020, Twitter a toujours été un lieu de liberté d'expression.
Twitter a toujours été un endroit où on pouvait être très honnête. On y trouvait beaucoup d'impertinence, de mots d'esprit, de quoi irriter les autres. C'était vraiment à ça que servait Twitter.
Twitter était l'aile en faveur de la liberté d'expression au sein du Parti de la liberté d'expression, sans aucune règle. C'était vraiment sa démarche à ses débuts.
Cependant, les collaborateurs de Twitter ont toujours consacré beaucoup de temps à la question de la désinformation. Par exemple, depuis 2022, un système d'alerte contre la désinformation a été lancé que les collaborateurs eux-mêmes appellent la modération des contenus.
False information and conspiracy theories and infodemic.
So there was this new...
Avec cette nouvelle politique de signalisation des tweets, de nombreuses personnes ont changé leur façon d'utiliser Twitter. Pour la première fois, on voyait des réseaux sociaux intervenir dans des domaines où ils ne s'étaient jamais aventurés.
La police de la parole ?
Je ne connais pas.
En quoi c'est drôle ?
Je trouve ça drôle parce qu'on a employé tellement de mots et d'expressions pour décrire le travail que j'ai fait. On disait qu'on était les dieux de Twitter. Mais aussi qu'on était la prison de Twitter, la police de la pensée, la police de la parole. Tous ces termes ont été utilisés pour décrire des êtres humains qui allaient tous les jours faire leur travail.
Quelle serait une meilleure description, selon vous ?
La modération de contenu.
Depuis que Elon Musk a acquis Twitter en octobre 2022, la plateforme a subi des modifications importantes concernant la liberté d'expression, la modération des contenus et la gestion des abus en ligne. À titre d'exemple, selon une nouvelle enquête menée par Amnesty International États-Unis, l'association JLAAD et le groupe HRC, 60% des répondants ont constaté une augmentation des discours violents et haineux à l'encontre de la communauté LGBTQLA+, sur Twitter depuis que Elon Musk est le PDG. Les 30% ont également été confrontés à une augmentation de la violence hors de ligne depuis octobre 2022, signalant plus de discours violents et haineux, ainsi que des manifestations, des menaces, du harcèlement et de la violence. Pour s'être apparu avec des règles plus rigoureuses que celles de Twitter, la modération est plus vigilante face aux insultes, aux contenus à caractère sexuel, ainsi que aux vagues de haine qui ont souvent favorisé le harcèlement. Sur LinkedIn, on suppose que peut-être l'annulation de l'anonymat refroidit également la toxicité de certains. TikTok a également des politiques de modération strictes et parfois excessives, entraînant la suppression de contenus légitimes ou la restriction de la portée des créateurs. Par exemple, sur Reddit, on peut voir des discussions sur des cas de blocage injuste de simples utilisateurs sur TikTok, dont le contenu est conforme aux exigences et aux règles de TikTok. D'un côté, la possibilité d'exprimer ses pensées peut être à l'origine de menaces, de haine, de provocations ou de fausses informations. Un exemple est le cas de Naël, âgé de 14 ans, qui a été tué par un policier. En effet, dans ce cas, les réseaux sociaux ont été utilisés pour propager la haine et la violence de deux côtés du conflit. Des hashtags comme « Justice pour Naël » et « ACAV » se propagent sur Twitter, accompagnent des messages haineux et violents visant les policiers. Des menaces de mort sont proférées et appellent à des protestations et à la violence. En parallèle, sur les réseaux sociaux, les publications sont apparues accusantes à Naël de provocation et manque de respect envers les autorités. Les manifestations étaient qualifiées de voyants et de criminels. Et d'autre côté, les restrictions peuvent créer un climat de peur et conduire à l'autocensure, comme nous pouvons le voir actuellement en Russie, en raison du blocage des sites web et des réseaux sociaux critiquant le gouvernement ou couvrant des événements qui ne correspondent pas à la position officielle. Parmi les réseaux sociaux interdits figurent Facebook, Twitter, Telegram, LinkedIn et bien d'autres. De plus, de telles restrictions peuvent entraîner une diminution de la diversité des opinions, comme dans le cas de Jamila, ce qui pourrait menacer la démocratie et l'échange d'idées. Il faut reconnaître que la liberté d'expression est un phénomène complexe, parfois avec des conséquences incontrôlées. À l'ère du numérique, il semble que la censure et la liberté d'expression sont plus que jamais liées. Mais quelles sont les limites de la liberté d'expression ? Toutes les restrictions des paroles sont-elles de la censure ? Comment éviter la censure des propos légitimes ? C'est un algorithme ? Peut-il décider à la place des utilisateurs duquel continue suscitera leur intérêt ? Et est-ce qu'il est vraiment possible de trouver un équilibre sain ?
Merci beaucoup Vlada pour cette chronique. Évidemment, je le rappelle encore une fois, dans les prochains jours et prochaines semaines, l'intégralité des contenus produits sur Ondulation, que ce soit les interviews, que ce soit les rencontres, que ce soit également les chroniques, vous pourrez les retrouver à la réécoute sur notre site internet orléans.radiocampus.org. D'ailleurs, restez avec nous, hein, parce que la journée elle continue à 13h, à 16h. On va avoir deux émissions autour justement de la musique, de la découverte musicale, des algorithmes sur les plateformes d'écoute. Et à 17h, on aura également une édition spéciale du magazine culturel, le Mac Culturel, où on recevra les artistes de la programmation de ce soir, Orange Pression, Plot, EFZ, Intida, Klaus. On aura également Madame Irma GPT qui aura le plaisir d'être avec nous sur le plateau, puisque juste avant, on propose, chers auditeurs qui nous écoutez, vous êtes également conviés à partir de 18h30 au Bouillon. On va faire un petit cocktail, ça va être vraiment sympathique. Donc si vous souhaitez nous rencontrer, n'hésitez pas et vous pourrez faire un petit peu de divination. Madame Irma GPT vous tirera les cartes de tarot et lira votre futur grâce à cette intelligence artificielle. Et également dans le Mac Culturel, en plus de la recevoir, on écoutera la production sonore qui a été réalisée hier soir avec Clay de Parade Prod et les participants et participantes de l'atelier Weird Radio Waves, un atelier pendant lequel on a créé de la musique avec comme matière première les ondes radio qu'on a pu capter avec des petits récepteur sur ordinateur. On continue en musique avec Out There, c'est un titre de Helado Negro.
Out there, you won't go.
Vous êtes toujours avec nous sur Radio Campus Orléans pour Ondulation 88.30 ans, médias et numérique libre. Vous l'avez compris, on est également avec cette semaine la radio québécoise universitaire CEFAC. CEFAC qui sont sur la même fréquence que nous. On en a parlé hier de comment est-ce qu'on s'est rencontrés autour de ce projet interculturel entre la France et le Québec soutenu par l'Office franco-québécois pour la jeunesse. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler un petit peu du projet en détail. Est-ce que vous pourrez retrouver sur nos antennes, sur les 88.3 FM de part et d'autre de l'Atlantique au cours des prochains mois. Alors, sur la même longueur d'onde, c'est le projet, c'est le nom que porte ce projet d'échange culturel. Alors, vous l'avez compris, hein, ça commence avec cette semaine, Ondulation. Ça continue dès la semaine prochaine. Alors, nous, c'est un peu plus en interne, mais à mon avis, et y a Viviane qui est en train de se préparer pour l'émission qui arrive à 13h, donc je lui visse un petit regard parce que je crois que sur les Olympiades radiophoniques, il y aura des choses qui seront diffusées à l'antenne. On va faire des Jeux Olympiques radio où il y aura une équipe de CEFAC qui affrontera gentiment, évidemment, une équipe, quoique, je ne sais pas. Vraiment, Viviane, elle a tout préparé avec Emma de CEFAC. Et j'ai aucune idée, moi, de ce qu'il y aura dans les Olympiades radiophoniques. C'est la surprise parce que je vais y participer. Donc, il y aura des épreuves et vous aurez probablement des choses à écouter à l'antenne et sur notre site internet, chers auditeurs et chères auditrices, bien évidemment. Ensuite, l'équipe de CEFAC, sur le reste de la semaine, aura l'occasion de rencontrer l'intégralité du réseau Radio Campus France. C'est pas beau ça? Et oui, parce que chaque année, les rencontres annuelles des Radio Campus, ça se passe dans une ville de France. Et cette année, à l'occasion des 30 ans de Radio Campus Orléans, eh bien, c'est à Orléans, en fait, que tout va se passer. Voilà. Les Radio Campus, 27 Radio Campus qui vont venir à Orléans. Ça sera à partir de jeudi prochain jusqu'à samedi. Et d'ailleurs, c'est évidemment les 30 ans de la radio. Vous le savez, vous l'avez vu sur nos réseaux sociaux, vous l'avez vu sur notre site internet. On vous propose jeudi prochain, déjà jeudi ce soir, Ondulation, mais on remet le couvert le jeudi, on remet le couvert le vendredi et le surlendemain, le samedi, pour trois soirées exceptionnelles, 30 ans avec les Radio Campus, avec CEFAC. Jeudi prochain, on sera de nouveau au Bouillon. Vendredi et samedi, ce sera un double apéro audio. Ça sera retrouvé au 108, le 108 de la rue de Bourgogne, que vous connaissez très très bien, pour un double apéro audio spécial 30 ans. Donc c'est comme ça que s'achèvera ces deux premières semaines de cette première moitié d'échanges culturels entre la France et le Québec, entre Radio Campus Orléans et CEFAC. Et après, on remettra le couvert du coup pour un acte 2. Ça sera du coup en novembre prochain. Et cette fois, c'est l'équipe de Radio Campus Orléans. Je suis en train de regarder Léo là, qui a la technique, parce qu'il part avec nous. On est 6 personnes de l'équipe de Radio Campus Orléans. On s'envolera à notre tour au Québec pour aller voir justement les amis de CEFAC directement dans leur studio. Et nous, on fait Ondulation cette semaine. Et eux, ils feront également un festival de radio, une première édition d'un festival de la radio, hein, la semaine de la radio, ça s'appellera très probablement comme ça, en tout cas c'est le nom de code entre nous. Ouh là là, je vous glisse des petits private jokes, enfin private information. Une semaine de la radio où pendant une semaine, CEFAC fera un peu comme nous, finalement, du DJ set, des émissions spéciales, il y aura du concert, il y aura des ateliers, il y aura vraiment un grand programme à découvrir à Sherbrooke. Donc si vous nous écoutez actuellement depuis Sherbrooke, sachez qu'en novembre, il y aura cette semaine de la radio organisée par CEFAC, du coup, à Sherbrooke, au Québec, au Canada, sur le continent américain, de l'autre côté de l'Atlantique, sur le 88.3 FM, évidemment, parce qu'on partage la même fréquence, parce qu'on est sur la même longueur d'onde. Et tout le reste de l'année, évidemment, on continue les échanges entre nous via la visio, certes, mais on continuera quand même à faire des choses ensemble, étant donné que... ah bah tiens, il y a Alex de CFAQ. Hello ! Tu veux venir au micro ? Là, il entre, il arrive. Alors actuellement, le plateau, il est sur justement la scène du club musical du Bouillon. Comment ? Tu dis quoi, Viviane ? C'est décousu, bon, c'est pas grave, c'est très bien quand c'est décousu. Comme ça, on pourra recoudre des trucs entre nous. Enfin bref, vas-y, je te laisse t'installer, Alex. Il nous rejoint sur ce plateau parce que vous pouvez venir voir toutes les émissions d'ondulation en public au Bouillon. On est en train de parler du projet sur la même longueur d'onde et de tout ce qu'on va faire. Et là, j'en venais justement à parler du yaourtophone. C'est quoi le concept du yaourtophone, Alex, directeur général de CFAQ?
Le concept est... une réflexion un peu sur la francophonie, sur ce qui nous rassemble, disons, les thématiques communes entre outre-Atlantique, en fait. Donc, c'est un balado, en fait, un podcast qui se veut une exploration un peu de tout ça à travers la musique, à travers la culture, donc des éléments qui font notre similitude, mais aussi nos différences. Donc, une petite réflexion sur différentes thématiques, là, notamment la musique émergente, puisque c'est aussi ce qui unit la mission de nos deux stations. Donc, on est à l'élaboration justement de ce yaourtophone-là, dont un épisode sera probablement enregistré ici. Un épisode sera enregistré à Sherbrooke et quelques épisodes à distance également tout au long de l'année. Donc, ce sera un très beau projet que j'ai bien hâte de concrétiser finalement.
Une émission balado podcast, puisque vous avez ce mot balado.
Oui, on a ce mot. Oui, on a une tendance à franciser un peu tout. Là, donc, c'est ce qui fait notre charme.
Est-ce qu'on, du coup, dans le yaourtophone, il est prévu qu'on fasse un petit jeu autour des titres de films, parce que je sais que tu es un grand fan de cinéma.
Oui,
on essaiera de deviner les versions françaises et les versions québécoises des titres de films, ça pourrait être marrant.
Ça pourrait être très intéressant parce que vous avez la tendance à angliciser les titres de films, alors que nous, on francise tout. Donc, justement, j'étais à Fnac ce matin, donc j'ai pu constater ça à mon grand dam. Même les films québécois sont traduits, des fois les titres sont modifiés, donc c'est la vie, mais c'est ça. C'est ce qui fait la beauté de notre belle francophonie. Et diverses.
Et puis évidemment, également tout au long de l'année, on va essayer aussi d'échanger des programmes, de diffuser des émissions de CFAQ sur notre antenne et des émissions de Radio Campus Orléans sur l'antenne Sherbrookeois. C'est comme ça que vous dites la gentillesse.
Exactement.
Sherbrookeois. Et bien écoutez, je pense que ça va être l'heure de se quitter. Dans deux minutes, restez avec nous. On est avec Viviane. On parlera justement de musique sur les deux prochaines émissions spéciales d'ondulation à 13h et à 16h. Ça va être donc l'heure de nous quitter. Donc vraiment, prenez soin de vous. Bon appétit, mangez. Encore une fois, vous pouvez nous regarder en live sur YouTube. Si vous n'êtes pas en train de conduire, restez safe, vraiment. Et puis voilà, je pense qu'on a à peu près dit tout ce qu'il y avait à dire. Je lance dans un instant un jingle de top horaire avec une minute d'avance, mais c'est pas grave, ça fera une minute de plus à raconter pour parler de musique. Donc c'est parti sur Radio Campus Orléans.
Radio Campus 88.3.
Faut me croire, mec, c'est de la bonne musique. C'est d'enfer, ça va te filer la pêche.
Non. Tout ce que ça va me filer, ton truc, c'est la migraine, stop.
Rien qu'une chanson.
Tu vois, ce qu'il te faut, c'est un peu de easy listening.
Radio Campus 88.3.
Je n'ai plus aucun signal audio.
J'ai aussi perdu l'audio.
Bon, allez, tout le monde, on y va.
C'est moi qui l'envoie ?
Médias et numérique libre.
Ondulation.
Ondulation.
Médias et numérique libre.
Ondulation.
Ondulation. Ondulation. Ondulation.